Jusqu'au 28 juin 2017, le musée du Louvre-Lens vous propose de redécouvrir les œuvres des frères Lenain, réalisées durant la première moitié du XVIIe siècle. Une exposition de peintures rares et encore mystérieuses, comme nous l'expliquent Nicolas Milovanovic et Luc Pirala, commissaire de l'exposition.
Là, on est déjà face aux œuvres. Il y a les frères Lenain, il y a très peu d'expos. Alors pourquoi ? Et on peut se demander pourquoi il y a peu d'expos. Il y en a une tous les 40 ans. En gros, les expos, c'est 1934, hein, au Petit Palais. C'était Jameau, vous verrez la bobine de Jameau tout à l'heure. Paul Jameau, c'est un grand conservateur du Louvre, de Reims. Et puis ensuite, Tullier, 78, au Grand Palais, 34, 78, 2017. Vous voyez, c'est tous les 40 ans. Il faut vraiment être là. Je pense que les gens comprennent ça aussi, comprennent que, d'une part, ce sont des artistes extraordinaires, ce sont des génies absolus de la peinture. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a trois génies, est-ce qu'il y a un génie? On peut en débattre, hein, et c'est ce qui est passionnant. On me posait aussi la question, on est au cœur du mystère Lenain. Beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, on ne peut pas entrer comme ça dans leur atelier où ils travaillaient ensemble, ils habitaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Premier mystère. Deuxième mystère, comment comprendre ces tableaux, que signifient les scènes paysannes qui ont fait leur immortalité, parce qu'il y a très peu de tableaux. Il y a aujourd'hui, si on met tout le monde d'accord, c'est-à-dire Pierre Rosenberg, Cuisin, etc., tous ceux qui ont travaillé sur le corpus, il y a vraiment 75 tableaux sûrs dans le monde, hein, tout compris. 75 tableaux, donc c'est très peu, et vous imaginez, quand vous avez 75 tableaux, vous ne pouvez pas faire des expos tous les 5 ans, vous ne pouvez pas faire des expos thématiques. Les Lenain, ça a toujours été des expos monographiques complètes qui ont fait le point du corpus. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très mal distribué. Il y en a 15 au Louvre, il y en a 4 à la Chale Galerie, après c'est 2, hein, 2 à l'Ermitage, 2 à Washington. Donc sans le Louvre, par exemple, on ne fait pas d'expo Lenain. Voilà, donc du coup, alors, on a dit un mot du projet, c'est initié par les collègues américains, il faut le dire, hein, initié par San Francisco et le Kimball au Texas, donc à Fort Worth. Et donc nous, on a repris, évidemment, dès le départ, on a été pleinement associés, mais deux expos différentes entre les États-Unis et la France. Là aussi, c'est un cas particulier, parce que les Américains ont voulu mettre l'accent juste sur les chefs-d'œuvre. 40 chefs-d'œuvre, c'est tout, une expo de chefs-d'œuvre. Et ici, on a voulu vraiment faire un point beaucoup plus complet. C'est légitime aussi, hein, comme le contexte, il est quand même français. L'ensemble des tableaux, notamment les tableaux les plus compliqués, ceux qui ne voyagent pas, les tableaux d'église, etc., sont en France. On ne pouvait pas aller aux États-Unis. Donc voilà, en même temps, c'est là où on voit vraiment, où on peut le mieux comprendre l'art des frères Lenain. Voilà. Après, dernière chose, et puis regardons les œuvres sur le titre, le mystère Lenain, ça reste des artistes très mystérieux, hein, je le disais il y a un instant. On ne les comprendra pas complètement, évidemment, à la fin de l'expo, donc le mystère va subsister. Il va falloir encore bien des années de travail et il va falloir que bien des œuvres ressortent pour mieux comprendre. Mais on espère quand même avancer un petit peu les choses. En faisant sortir des nouveaux tableaux, vous verrez qu'il y a plusieurs tableaux, je vous l'ai déjà dit, mais discutons-en devant, des tableaux qu'on ne connaissait pas. Et puis surtout, on a mis les pieds dans le plat sur cette question de répartition des mains, qui est un peu un serpent de mer dans l'histoire des Lenain, avec des parties qui ont été très différents. Jacques Tullier, en 78, je vous le rappelle, a préféré ne pas discerner. C'est trop compliqué. Alors, son avis est très fort, très tranché. Il n'a pas été partagé par tous. Dans la foulée, l'année suivante, il y a un article de Pierre Rosenberg. Il dit moi, je pense qu'il faut le faire. Il faut distinguer les mains. Donc, on a été plutôt du parti Rosenberg que Tullier. Même si vous verrez, il y a de grands hommages à Tullier qui a énormément fait pour les Lenain. Il en a découvert lui-même. Il a fait avancer la recherche. Mais il restait que ne plus discerner les Lenain aujourd'hui, enfin les trois mains, c'était ne plus avancer. Pour avancer, on a besoin de discerner ces personnalités artistiques. Vous allez voir, c'est des artistes très différents. Il y a des telles différences stylistiques dans les tableaux qu'aujourd'hui, on attribue à on va dire, la marque Lenain, que si on a pour principe de ne pas séparer, on n'avance pas. On n'avance pas non plus, par exemple, sur la question de la chronologie. C'est aussi une question, quand vous faites de l'histoire de l'art, vous savez savoir qui a peint quoi et comment ça s'ordonne dans le temps, comment un artiste évolue. Pareil, si vous mettez tout dans le pot commun, donc je pense qu'il y a aussi 40 ans d'évolution, hein, entre l'expo de 78 et aujourd'hui, énormément de choses ont changé. Et donc voilà, aujourd'hui, ce que vous avez à Lens, c'est le nouveau regard qu'on peut proposer sur les Lenain, en essayant d'avancer, en proposant donc des choses nouvelles, mais sans résoudre le mystère Lenain qui subsistera après.
Nous sommes toujours au Louvre-Lens pour la présentation de l'exposition temporaire Le Mystère Lenain, présentée jusqu'au 28 juin 2017. Nous poursuivons avec Luc Pirala, co-commissaire de cette exposition, notre immersion dans l'univers des œuvres des frères Lenain, rassemblées pour cette exposition de manière très exceptionnelle.
Tout à fait, on a réussi à réunir 70 œuvres dans cette exposition. Pour rappel, l'œuvre des Lenain, dans son entièreté aujourd'hui, fait à peu près 70 tableaux. Alors on n'a pas que des tableaux des Lenain dans l'exposition, mais autour de 50-55, ce qui est un corpus très important. C'est vrai que la question de ce nombre d'œuvres existants explique, j'allais dire, l'événement qu'on expose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une exposition Lenain est forcément rare puisque les tableaux sont à la fois rares et en plus répartis dans les collections particulières ou de musées en Europe, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on profite du projet de nos collègues américains, qui a été la première rétrospective au Lenain aux États-Unis, pour pouvoir présenter ici à nouveau, j'allais dire pratiquement 40 ans après la très grande rétrospective qui avait eu lieu à Paris en 1978, un nouveau regard sur les frères Lenain, j'allais dire toujours aussi mystérieux.
Donc ici on a plusieurs œuvres donc de plusieurs frères, hein, c'est oui. Bien cela. Quelle serait, selon vous, l'œuvre la plus importante, intéressante, et peut-être celle aussi la plus mystérieuse ?
La question est très ambitieuse. On a beaucoup vu les frères Lenain qui ont été, j'allais dire, oubliés après leur mort, mais redécouverts au XIXe siècle, comme avant tout des peintres paysans, avec cette particularité des scènes paysannes. Et c'est vrai que, vous l'avez vu, les tableaux paysans sont quand même des œuvres très emblématiques qui ont marqué en plus l'imaginaire de l'art français. Donc ça reste encore des tableaux très très importants, mais c'est vrai qu'on a aussi voulu mettre en avant d'autres œuvres, l'œuvre par exemple qui fait le visuel de l'exposition, donc La Victoire, qui est l'œuvre tout de suite quand on arrive dans l'exposition, donc cette allégorie de la victoire qui met à mal la tromperie. C'est aussi un autre aspect des Lenain, donc plus allégorique. Il y a aussi de la peinture mythologique. C'est aussi ça qu'on a envie de mettre en avant. Il y a aussi beaucoup de découvertes, je pense que vous l'avez vu, des tableaux inédits qui sont présentés pour la première fois, dont un petit portrait retrouvé chez les descendants des Lenain il y a à peine quelques mois et qu'on a eu le temps de faire restaurer juste pour l'occasion. Voilà, c'est aussi une preuve que l'exposition est aussi le moment de recherche et de redécouverte sur des peintres encore assez mystérieux malgré tout.
Donc le public, quand il entend parler du mystère Lenain, il imagine en fait une personne, un peintre, ouais. Mais en fait il y a des frères, on ne sait pas encore leur réel prénom, vous les avez attribués ?
Si, non, alors on connaît les noms des frères Lenain, donc ce sont trois peintres, la fratrie est plus importante, mais les peintres sont trois, on connaît les prénoms, on connaît à peu près l'ordre de naissance, donc Antoine, Louis et Mathieu, on ne connaît pas vraiment par contre leur date de naissance, en revanche on sait qu'ils sont à Paris à partir de 1629, dans le même atelier. Ils habitaient ensemble d'ailleurs et tous trois sont morts célibataires. Donc il y avait vraiment une unité familiale très très forte à l'intérieur de cet atelier. Et d'ailleurs, pour les tableaux qui nous sont restés signés ou datés, ils étaient signés Lenain comme presque une marque de fabrique en fait. Voilà, le tableau est sorti de cet atelier Lenain. Mais à l'intérieur de ces tableaux signés datés, en fait, il y a une très grande hétérogénéité stylistique. Et c'est vrai que c'était compliqué de ne pas aborder la question des différents frères au sein de l'exposition pour les visiteurs aujourd'hui. Voilà, ça c'est un parti pris qu'on a voulu pour rendre aussi quelque part le visiteur plus acteur de sa visite, pour qu'au fond il arrive lui-même à voir, enfin on essaye de faire voir au maximum quelles pouvaient être ces différentes personnalités pour qu'au fond lui donner les clés de lecture, enfin une des clés de lecture possibles sur un des mystères Lenain qui est au fond qui a peint quoi à l'intérieur de l'atelier quoi.
Voilà, donc on va dire plusieurs mystères, hein, des couches de mystères avec un, est-ce que c'est un Lenain ? Deux, duquel ?
C'est ça, il y a encore d'autres mystères, on pourrait en dérouler, notamment pour les scènes paysannes, la question du Au fond, qu'est-ce que ça représente véritablement? Est-ce qu'on est dans une représentation réaliste, véritablement, d'intérieur paysan? Et si oui, pour qui? C'est-à-dire qui achetait ces tableaux au XVIIe siècle? Tout ça, c'est encore très mystérieux. Alors, il y a plusieurs hypothèses, des hypothèses notamment d'ordre religieux. Est-ce que les commanditaires de ce tableau-là le faisaient dans un contexte de charité, par exemple, qui est très, très en vogue à ce moment où l'Église catholique essaye de reprendre un petit peu la main, hein, puisqu'elle a été mise à mal il n'y a pas si longtemps que ça par la réforme. Bon, c'est une hypothèse. Nous, on pense que finalement, la question des sujets, de la matière, de cet amour de la peinture, penche peut-être plutôt vers... au fond, une question de marché de l'art ouvert, c'est-à-dire un moment, donc les années à partir des années 1620-1630, notamment à Paris, où il y a une sorte d'explosion du marché de l'art. C'est-à-dire qu'on n'a plus que des très très grands commanditaires, on commence à avoir une classe moyenne ou intermédiaire qui commence à s'intéresser à la peinture et qui commence à collectionner sans pour autant être des très très grands collectionneurs. Et d'ailleurs, à Paris, à Saint-Germain-des-Prés notamment, là où habitaient les Lenains, où ils étaient fixés, on a beaucoup beaucoup d'artistes flamands ou de tableaux flamands qui sont présentés à la foire. Et il est tout à fait possible que finalement les Lenains peignaient avant tout pour se distinguer dans ces foires très ouvertes. Vous voyez, on n'est pas dans un système de commande traditionnel, ce qui peut expliquer un des mystères, autres mystères lenins, qui est qu'on sait que c'est des peintres importants. Ils ont peint pour Notre-Dame de Paris, ils ont peint, les sources nous disent, le portrait d'Anne d'Autriche, donc la reine-mère quand même, mais on ne les retrouve pas dans les très très grandes collections au XVIIe siècle. Vous voyez, et cette absence-là posait problème. Et peut-être qu'on le résout en disant... Alors, il y a une interprétation religieuse par rapport au fait qu'on est dans des sectes cachées, ultra-catholiques, etc. Bon, c'est une hypothèse, on y croit un petit peu moins. L'autre hypothèse serait qu'au fond, c'est acheter, comme vous et moi, comme vous pouvez acheter finalement une œuvre, vous voyez, à un coût relativement plus modeste que les tableaux très très importants des très très grands peintres de l'époque.
Alors, si on reprend le contexte de l'époque, si on revient un peu en arrière, on est au début du XVIIe siècle. Ouais. Et durant cette période-là, les peintres, et notamment sur les scènes de paysans qu'on voit, les scènes paysannes, on sent une inspiration beaucoup plus flamande que, par exemple, par la suite, italienne.
Alors oui, c'est un peu les Lenains, à partir du XIXe siècle, étaient vus comme des artistes très, très français. Hein. C'est un peu les représentants de l'art national dans un moment, le 19e, qui met très en avant le côté, j'allais dire, nationaliste de la manière de voir les choses globalement. Et c'est vrai qu'ils ont été vus tout de suite comme les espèces de représentants d'un art typiquement national qui tournait le dos à l'Italie. Bon, en fait, quand on regarde plus précisément, on voit bien qu'ils sont quand même influencés par le caravagisme, qu'ils sont quand même un peu influencés par l'Italie, et surtout qu'ils regardent aussi beaucoup, beaucoup la peinture du Nord, qui est en fait ultra présente dans leur contexte, j'allais dire, quotidien. À Paris, au XVIIe, il y a des peintres flamands très importants qui y sont établis, et comme je vous l'ai dit, beaucoup, beaucoup de tableaux qui circulent, en fait, quand bien même les peintres sont fixés à la fois dans les Provinces-Unies, comme on disait, donc la Hollande actuelle, ou la Flandre, donc la Belgique actuelle. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une inspiration sur le type de sujets qui sont traités par les Lenains. Mais en même temps, la manière de les représenter n'a rien à voir. C'est-à-dire, les sujets paysans chez les Flamands sont beaucoup plus grotesques, caricaturaux, assez méchants quelque part pour les paysans. Il y a un côté distinctif très important par rapport aux commanditaires. On ne trouve pas du tout ça chez les Lenains. Vous l'avez vu, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre déjà de la non-action, du regard très très important, du silence, et quelque part un ennoblissement des figures qui est là tout à fait inédit.
Alors, c'est vrai que les personnages, on va dire, hein, qui posent dans cette peinture paysanne de Lenain sont relativement stables et non caricaturés. Hein. Par contre, il manque peut-être l'énergie des personnages de la peinture flamande, non ?
Alors c'est une question d'énergie. Oui, je comprends ce que vous voulez dire dans le sens où l'action intéresse peu les Lenins, en fait. On est plutôt dans une peinture silencieuse, on l'a dit. Et c'est aussi ce côté silencieux, j'allais dire, très posé, qui a induit une interprétation religieuse, si vous voulez, notamment sur le repas de paysan, où en plus, bon, il y a du pain et du vin au milieu de la composition, qui fait penser évidemment aux espèces eucharistiques. Mais non, je pense que c'est un style, j'allais dire, enfin vraiment une manière de se distinguer dans la production contemporaine. Voilà, les Lenins, ils font des scènes de genre, même si on n'utilise pas le terme au XVIIe siècle, sans action, quoi, quelque part.
Donc ils ne sont pas les seuls à l'époque à faire ce type de peinture, enfin de scène. Parfois on a du mal à attribuer les œuvres aux uns et aux autres.
Ce qui se passe, c'est qu'ils sont précurseurs quand même. C'est-à-dire qu'avant eux, on a du mal à trouver des scènes similaires. C'est-à-dire que là, vous n'avez parlé de la Flandre, on peut aussi parler de l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, et des chassés-croisés, parce qu'il y a ce qu'on appelait des bambochades, c'est en fait des artistes flamands qui sont installés à Rome et qui ont créé ce type aussi de scènes de genre très en faveur aussi à Paris. Donc ce contexte-là existe, mais il y a quand même une spécificité, il faut quand même le reconnaître, de la production, notamment des scènes paysannes, des Lenins. Ce qu'on voit après, c'est qu'en fait, ils ont été copiés par la suite, c'est-à-dire qu'en fait ils sont devenus populaires, et donc quelque part il y a des artistes dont certains on connaît les noms, d'autres on connaît moins les noms, donc on les appelle par des noms de convention, comme on dit en histoire de l'art, qui très certainement ont essayé de surfer, j'allais dire, sur la mode Lenin, quoi. Et par exemple, un peintre qui s'appelle Jean Michelin, on sait par des sources anciennes que en fait c'était un faussaire, quoi. Il essaye de vendre des tableaux comme des Lenins à la foire, quoi. Et ça, on le sait dès le XVIIe siècle, pardon.
Alors, avant le nain, qu'est-ce qu'il y avait en peinture, on va dire début du XVIIe, voire un peu avant, qui aurait pu aussi apporter des clés, peut-être même dans l'apprentissage des Lenins, en termes de pratique?
Alors, c'est un grand mystère. On sait d'après les sources anciennes, et une source relativement fiable, que les peintres auraient été formés pendant l'espace d'un an par un peintre étranger à Lens. Alors on a beaucoup glosé sur la question de qui était ce peintre étranger, pour tout vous dire on n'en sait rien. Il y a plusieurs hypothèses là-dessus. On a pu parler, les collègues américains par exemple, ils voient Philippe de Champaigne. Philippe de Champaigne qui est un des très très grands peintres, enfin un peintre merveilleux français de ce premier XVIIe siècle, mais qui est originaire de Bruxelles et qui donc a fait le voyage, j'allais dire, entre Paris et Bruxelles, il serait clan et à peu près entre Paris et Bruxelles. Mais après, on n'a pas d'autres finalement preuves que ça soit lui. La notion même de peintre étranger fait débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on est véritablement un peintre étranger, c'est-à-dire pas français, ou un peintre étranger qui est juste originaire d'autre part que de Lens? Vous voyez, on est encore plein d'interrogations là-dessus. Bon, il y a d'autres hypothèses, je ne vais pas toutes vous les citer. Je vous avoue que là-dessus, c'est pas là où on a le plus de, on a le plus avancé. Le débat reste ouvert. Mais on a pas vraiment de choses très concrètes. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que très rapidement, après leur installation, donc en 1629, ça, on sait à quelle date ils s'installent. Très rapidement, les commandes qu'ils ont dans les années 30-32, c'est déjà des commandes déjà très importantes et quand même avec un atelier assez abouti, puisqu'ils arrivent à faire des commandes religieuses, notamment de très grands formats, assez importantes, quoi.
Alors justement, est-ce que le fait qu'ils soient trois frères à peindre en même temps et parfois qu'ils utilisent leurs trois mains sur les mêmes tableaux, ça ne leur a pas permis justement de travailler plus vite, de manière plus efficace, de manière plus composée d'une certaine manière et de créer leur propre style?
Ah, peut-être. Peut-être. Alors on a rarement trois mains sur un même tableau, on a souvent deux... Demain, après, c'est toujours délicat de les vraiment les décomposer parce qu'on est vraiment dans des débats de spécialistes aussi sur des questions de, j'allais dire, de feeling pratiquement entre les différents spécialistes. Difficile à dire jusqu'à quel point la manière dont ils travaillent influence leur style. On se rend compte quand même que, et c'est un peu l'objet de l'exposition, qu'on a affaire quand même à trois personnalités au moins très différentes, avec une technique qui est quand même différente. Alors évidemment, sur certains tableaux, on sent les deux mains, parfois, ça, ouais, c'est clair. C'est notamment clair quand les analyses scientifiques viennent nous le démontrer, c'est-à-dire que c'est difficile à voir quand on peint, si vous voulez, j'allais dire... D'une même traite. Ça, c'est très compliqué. En revanche, il y a des tableaux où c'est même visible à l'œil nu, où il y a des reprises de composition, où on a eu un état, et puis un peintre est revenu, et souvent, on se rend compte que c'est plutôt un autre frère qui est revenu sur un des tableaux. Et donc là, on a les mains particulièrement visibles. Après, sur le... J'allais dire, les grandes commandes dont j'ai parlé juste à l'instant, c'est pas forcément évident de voir. C'est difficile à dire jusqu'à quel point leur manière de travailler, je veux dire, influence le style. C'est pas tout à fait sûr, puisque au fond, on se rend compte qu'on arrive quand même à les distinguer plutôt bien.
Donc la peinture à trois mains pour une exposition de demain, elle va tourner ensuite, alors, après le Louvre-Lens?
Non, on finit le tour, si vous voulez, puisqu'on est l'étape finale des expositions. Elle a déjà été vue dans un format d'ailleurs beaucoup plus réduit, donc au Texas, au Kimball Art, qui est vraiment un très très grand musée américain, puis à San Francisco, qui est évidemment lui aussi un très grand musée américain. Et donc on la présente, j'allais dire, on est l'étape finale de ce voyage. Voilà, pour le plus grand bonheur, j'espère, des visiteurs français. Ce qui explique aussi d'ailleurs le format relativement restreint de l'exposition, parce que malheureusement, on ne pouvait pas prêter les tableaux beaucoup plus longtemps. Pour certains, ils sont partis plus d'un an, en fait, entre l'étape initiale et l'étape lensoise, ce qui est évidemment énorme pour des joyaux des collections prêteuses, quoi.
Voilà, donc on peut aussi attendre beaucoup de visiteurs étrangers, puisque c'est une des dernières étapes.
Ah ben oui, des Français comme les étrangers. De toute façon, évidemment, au Louvre-Lens, on est ouvert à tout le monde. Et c'est vrai que notre localisation géographique invite notamment le public flamand à venir redécouvrir des peintres souvent vus très français, mais qui ont encore beaucoup à nous dire, notamment en Flandre.
Merci à Luc Pirala et à Nicolas Milovanovic pour leurs précieuses explications sur cette exposition temporaire, Le Mystère Le Nain, présentée au Louvre-Lens jusqu'au 28 juin 2017. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus.